Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver ensemble pour cette petite explication, ce survol du livre de l'Apocalypse. Alors, il ne faut pas vous décourager, hein, c'est pas si compliqué que ça, non? Apocalypse 1, vision du Christ glorieux. 2, 3, les sept églises. Ça, c'est encore très simple. Apocalypse 4, on entre dans le symbolisme du trône, le Père qui fait alliance, les quatre vivants et tout ça. Et ensuite, 5, c'est donc le livre scellé qui est donné par l'agneau de Dieu. On voit donc comment c'est le Christ crucifié qui nous donne la véritable lumière sur le livre scellé qui était fermé parce que tant que le Christ n'est pas mort, on ne pouvait pas avoir accès à cette vie éternelle et à ce plan de Dieu sur nous. Et ce plan de Dieu sur nous va s'ouvrir à travers donc les sept sceaux. On avait lu les sceaux dans Apocalypse chapitre 6, hein, les six premiers sceaux qui vont s'ouvrir. Et aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur les quatre premiers sceaux. Alors, le premier sceau qui s'ouvre, s'ouvre sur un cheval blanc. Alors, et la question qu'il faut se poser, c'est à travers ces quatre chevaux-là, est-ce que tous ces chevaux sont bons? Est-ce que tous ces chevaux sont mauvais? Est-ce qu'il y a des chevaux qui sont bons, d'autres qui sont mauvais? On va essayer de réfléchir sur ces quatre chevaux. Et on voit bien que les quatre premiers sceaux qui sont liés à la voix des quatre vivants, qui sont liés aux quatre chevaux, font une unité par rapport au cinquième et au sixième sceau, qui sont un petit peu différents. Et donc, on voit bien qu'on a un animal qui apparaît dans chacun de ces sceaux, qui est le cheval. C'est pas le chat, c'est pas le chien, c'est le cheval. Et le cheval, pourquoi? Parce que je crois que le cheval, c'est l'animal du combat. Hein, vous voyez, avant qu'on ait les chars et les avions, eh bien, l'animal qui combattait, c'était la cavalerie. Il y avait l'infanterie et la cavalerie. Et le cheval, c'est donc l'animal du combat par excellence, pour montrer qu'à partir du moment où je suis sur Terre, il y aura un combat. Et ce combat qui est le mien est un combat qui s'ouvre sur le premier cheval, qui est le cheval blanc. Alors, je vous relis, hein. « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Et on voit que ce cheval, d'abord la couleur blanche, c'est la couleur de la pureté, la couleur de la victoire, et il vient pour vaincre et pour vaincre encore, eh bien, c'est clair qu'on a l'impression que ce cheval pourrait très bien être attribué directement à Jésus-Christ, qui est le vainqueur. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, on trouve un autre cheval blanc dans Apocalypse, au chapitre 19, à partir du verset 11, que je vais vous lire. Donc, Apocalypse, chapitre 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. » Celui qui le monde s'appelle fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu, sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui, et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est le Verbe de Dieu, son nom est la Parole de Dieu. Et on voit bien que ce cheval blanc de Apocalypse chapitre 19 verset 11 est un cheval qui est attribué directement à Jésus. Et donc, il y a des gens qui disent que comme le cheval blanc dans l'Apocalypse, c'est le cheval qui attribue à Jésus, on voit ici dans ce premier cheval, Jésus-Christ qui vient pour vaincre et pour vaincre encore. Vous avez d'autres personnes qui interprètent d'une manière différente en disant que ce qui est bizarre dans ce cheval, c'est que ce cheval a un arc. Et l'arc n'est pas une arme très utilisée dans les Saintes Écritures. Vous voyez, habituellement, quand on parle de Jésus, on dit qu'il a une épée. L'épée, c'est l'arme qui est la parole de Dieu d'ailleurs, hein, comme c'est dit dans Éphésiens au chapitre 6. Et là, voir ce Jésus-Christ avec un arc, ça fait quand même bizarre. Et certaines personnes donc interprètent en disant que cet arc est là pourquoi ? Pour nous faire comprendre qu'il faut quand même qu'on essaye de réfléchir sur ce cavalier blanc. Et ils utilisent un verset que je vous lis qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. « Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Et donc, est-ce que ce cheval blanc est le cheval qui représente Jésus-Christ qui est vainqueur de tout? Ou est-ce que ce cheval représente le diable qui est celui d'ailleurs qui a mis l'humanité entière dans la perdition à cause du péché originel? Ce livre qui s'ouvre, ce livre scellé avec le premier cheval, est-ce que ce premier cheval blanc représente le Christ ou représente le diable? Parce qu'une chose qui est sûre, c'est que le jour où le diable va venir te déranger, le diable ne va jamais venir te déranger en te disant que c'est moi le diable, viens chez moi, tu seras malheureux toute ta vie. Et c'est pour ça que le diable, quand il se présente à nous, il se présente toujours à nous, eh bien, en se cachant, en faisant croire que il est justement celui qui est Dieu. Hein, je vous relis 2 Corinthiens 11, 13. On parle d'abord des faux apôtres. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et toute personne qui va venir te faire croire qu'il est apôtre de Christ. Si le diable venait te voir avec une fourche pour te dire que viens, je vais t'enfourcher, je vais te mettre en enfer pour toujours, tu vas jamais le suivre, jamais. Mais par contre, quand il va venir te tenter en te séduisant avec des choses, en te faisant croire que là, au moins, tu pourras être un petit peu tenté de le suivre. Hein? Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Alors, et c'est pour ça que vous avez des gens qui vous disent que le premier cheval, le cheval blanc, c'est le Christ qui est victorieux, et d'autres qui vous disent que non, c'est plutôt le diable qui se déguise en ange de lumière et qui, à travers l'arc, montre bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Le diable, lorsque vous le rencontrez, je ne vous souhaite pas de le rencontrer, hein, ce n'est pas une rencontre très sympathique, mais le diable, dans sa vie, il y aura toujours, à un moment ou un autre, un signe qui montrera que ce n'est pas Dieu. Et quand tu rencontres le diable quelque part, même si apparemment il y a des choses qui semblent conformes à ce que Dieu veut, il y aura toujours un petit signe. Et le petit signe là, ils disent donc c'est l'arc qui n'est pas conforme à l'épée. En tout cas, moi ce que je fais, je réconcilie tout le monde et on va trouver, je vous ai dit déjà il y a quelques enseignements auparavant, que vous pouvez trouver un même symbolisme qui a deux significations différentes. C'est-à-dire que l'eau peut symboliser la mort comme l'eau peut symboliser la vie. Le serpent peut symboliser Satan comme le serpent peut symboliser le Christ. Ouais. Donc, et je trouve, moi, dans ce symbolisme du premier cheval, le cheval blanc, une chose qui est sûre, c'est qu'on va voir la victoire du Christ en définitive. Et je pense que ce livre scellé va s'ouvrir sur la victoire. Nous sommes persécutés, mais nous sommes victorieux. Et nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Et c'est la grâce de Dieu qui donne la signification à toute notre vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'à travers ce cheval blanc, je pense qu'on peut voir justement cette victoire du Christ qui est plus fort que tout. Mais cette victoire du Christ, c'est une victoire sur quoi? Sur justement les forces du mal. Et c'est pour ça qu'à travers ce cheval blanc, si on peut interpréter comme étant Satan qui se déguise en ange de lumière, on va voir donc forcément la présence de Satan et du péché originel qui fait que par le péché originel, Satan est venu pour vaincre. Pas vaincre pour qu'on soit avec Dieu, mais vaincre pour qu'on soit avec lui. Et tant qu'il sera à l'œuvre, Satan va toujours tout faire pour essayer de conquérir le plus d'âmes possible pour partir en enfer. Et donc, ce qui donne la signification à notre vie chrétienne, c'est le péché originel qui est là et qui va permettre la victoire du péché originel par la venue du Christ sur la terre. Et moi, je verrais très volontiers, vous voyez, dans ce premier cheval, le cheval blanc, à la fois la figure de Satan qui est présent dans le livre de la Genèse et qui va mettre les gens dans l'égarement, avec en contrepartie le Christ qui vient et le Christ qui sera vainqueur pour nous montrer que dans le livre de l'Apocalypse, quel que soit le combat, le Christ sera toujours vainqueur du diable. Et ensuite, vous voyez, les trois autres chevaux sont des chevaux qui sont, eux, d'une manière claire et nette, pour moi, négatifs. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire « Viens ». Et un autre cheval rouge feu sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Et on voit comment le deuxième cheval, ça va être la haine. La haine entre les hommes qui vont s'entretuer. Si on prend le livre de la Genèse, le livre de la Genèse, c'est, j'ai envie de dire, c'est, si on ouvre un livre, le début, c'est bien la Genèse. Et le livre qui s'ouvre sur le premier sceau, c'est quand même le cheval blanc. Et donc, ce livre qui s'ouvre va s'ouvrir sur le cheval blanc qui est la victoire du Christ sur toutes les forces du mal. Et la force du mal, c'est dans Genèse au chapitre 3, le péché originel. Et bien, dans Genèse au chapitre 4, qu'est-ce qui se passe? On voit Abel et Caïn qui s'entretuent. Après la victoire du Christ sur le péché originel, le premier cheval, le cheval blanc, on voit quoi? On voit un autre cheval rouge feu. Rouge feu, c'est la couleur du diable dans Apocalypse au chapitre 12. Le dragon qui est face à la femme a la couleur rouge feu. C'est la couleur du diable. Et un autre cheval rouge feu sorti. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Mais le premier qui a été égorgé, c'est Abel qui a été égorgé par son frère Caïn. Et on voit comment justement, à cause du péché originel dans Genèse chapitre 3, il y a des conséquences. Et la conséquence du péché originel, premièrement, c'est que les frères vont s'entretuer. Il n'y a plus de charité fraternelle. L'amour entre les hommes disparaît. Et donc c'est pour ça que, à partir du moment où le péché originel intervient dans notre vie, ce péché originel va faire qu'il y aura des conséquences. Première conséquence du péché, c'est Abel et Caïn qui s'entretuent. Si on avait le temps, on lirait Genèse chapitre 1 à 11. Genèse chapitre 1 à 11, ce sont des chapitres qui sont très importants. Et c'est avec Genèse chapitre 12 que nous rentrons dans le premier personnage historique biblique. Je m'explique. Genèse chapitre 12 nous parle d'Abraham. Et Abraham, dans Genèse au chapitre 12, est le premier personnage biblique qui en même temps est historique. L'histoire nous parle d'Abraham. L'histoire ne nous parle pas d'Adam et Ève. Alors, on va entrer dans un autre débat là. Est-ce que Adam et Ève ont existé? Est-ce que l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden a existé? Est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a existé? Qu'est-ce qu'il faut penser de ces 11 premiers chapitres de la Genèse? L'Église nous enseigne que ces 11 premiers chapitres de la Genèse sont métahistoriques, donc au-delà de l'histoire. Et l'Église nous enseigne que l'histoire commence avec Genèse chapitre 12, Abraham. Et je pense que c'est sans doute à cause de cela que le père des croyants est Abraham et le père des croyants n'est pas Adam. Parce que c'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'on dit que le père des croyants c'est Abraham? Pourquoi c'est pas Noé? Pourquoi c'est pas Adam? Parce que justement les 11 premiers chapitres de la Genèse étant métahistoriques, c'est le premier personnage historique avec qui Dieu a fait alliance, c'est Abraham. Et Dieu est venu visiter Abraham, Genèse chapitre 18, et trois personnages qui viennent rentrer chez lui, apparition en chaîne de Mambré. Donc, les 11 premiers chapitres de la Genèse sont métahistoriques. Donc, je reprends ma question. Est-ce que l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden est un arbre qui existe? Aujourd'hui, pour être plus clair, est-ce que vous pouvez trouver un verger ou un champ, ou je ne sais pas moi, où vous allez trouver l'arbre de la vie et vous pouvez acheter du fruit de l'arbre de la vie? Et il est clair que si tu envoies ton enfant aujourd'hui au marché ou au supermarché lui demander que achète-moi 5 kilos de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne trouvera jamais. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'existe pas comme un arbre qui est planté dans un champ et qui donne du fruit. Comprenez bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal existe en tant que c'est un symbolisme utilisé par Dieu pour nous dire quelque chose. L'arbre de la vie existe en tant que c'est un symbolisme utilisé par Dieu pour nous dire quelque chose. Et ce symbolisme nous dit quelque chose de vrai. Mais c'est symbolique et ce n'est pas réel. Je m'explique. Dans Genèse chapitre 1, le premier récit de la création, on voit que Dieu crée l'homme et la femme le sixième jour. Genèse chapitre 1, verset 28, il les bénit, il leur dit « Soyez féconds, multipliez la terre, remplissez là, c'est le sixième jour. » Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et ressemblance, il les créa homme et femme. » Et donc le sixième jour, Dieu crée l'homme et la femme, comme son chef-d'œuvre. Dans le deuxième récit de la création, Dieu crée d'abord un jardin, il prend de la terre, il crée Adam, puis il crée les animaux, puis il crée Ève. Si un scientifique commence à lire la Bible en lisant le premier récit, puis le deuxième récit, eh bien il va fermer ce livre en disant que ce livre n'a aucun sens. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme en même temps, c'est le premier récit. Et cette même Bible dit que Dieu a créé l'homme, puis les animaux, puis la femme. Alors, de deux choses l'une. Soit il y a un des deux récits qui est vrai, soit les deux récits sont faux, mais les deux récits ne peuvent pas être vrais tous les deux en même temps, puisque Dieu ne peut pas en même temps créer l'homme et la femme le même jour, et créer l'homme, puis les animaux, puis la femme. Et c'est pour ça que si tu regardes ces deux récits de la création d'une manière scientifique, tu vas trouver qu'il y a une opposition. Si tu les regardes maintenant d'une manière symbolique, tu vas trouver que chacun des deux récits de la création dit quelque chose sur l'homme et sur la femme. Et tu vas comprendre que dans le premier récit, lorsque Dieu nous dit que Dieu crée l'homme et la femme en même temps le sixième jour, c'est pour montrer qu'il y a égalité entre l'homme et la femme. Maintenant, dans le deuxième récit, Dieu crée l'homme, puis les animaux, puis la femme, pour montrer qu'il y a une complémentarité entre l'homme et la femme. Mais la complémentarité entre l'homme et la femme n'enlève pas le fait qu'ils ont une égalité du côté des droits. Et c'est pour ça qu'il y a une égalité et une différence entre l'homme et la femme. Et les deux récits précisent bien qu'il faut avoir un regard qui soit suffisamment complet sur l'homme et la femme pour comprendre bien le rôle de l'homme et de la femme dans la vie de couple, dans la société et partout. Je suis contre la parité. C'est des trucs qui sont pour moi tellement idiotes et bêtes que vraiment, je vous assure. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'on veuille qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans le gouvernement. Je n'arrive pas à comprendre qu'on veut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes partout. Ça n'a pas de sens. Qu'on commence d'abord par mettre ça dans les équipes de foot. On met 6 hommes et 5 femmes. Je ne sais pas, mais trouvez... Mais c'est tellement aberrant, ces histoires. Et la Bible, pour ça, éclaire et nous éclaire. Je suis pour que l'homme et la femme aient les mêmes droits. On est d'accord. Que la femme puisse voter, je crois qu'on est tous d'accord. Il n'y a même pas à discuter, c'est bien. Que l'homme et la femme soient égaux, il y a une égalité entre l'homme et la femme. Personne ne peut en disconvenir. Mais quand les femmes ont créé le MLF, Mouvement de Libération de la Femme, pour donner des droits à la femme, je suis pour. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous les hommes, on se lève et qu'on crée le MLH, le Mouvement de Libération des Hommes. Et je vous assure que le jour où je vais créer le Mouvement de Libération des Hommes, le premier défilé qu'on fera et le premier slogan qu'on fera, on défilera devant les Élysées, devant les Champs-Élysées ou devant le palais du président pour dire la grossesse pour les hommes, la grossesse pour les hommes. Les hommes ne porteront jamais un enfant dans leur ventre. Il y a une complémentarité entre l'homme et la femme. L'homme n'est pas la femme et la femme n'est pas l'homme. Et lorsqu'un homme veut devenir une femme, il devient laid. Lorsqu'une femme veut devenir un homme, elle devient laide. Il faut que l'homme soit homme et que la femme soit femme. Les choses sont claires. Et c'est pour ça qu'il y a deux récits de la création. Pour nous montrer que l'homme et la femme ont des droits et il y a une égalité. Et c'est normal. Et c'est bien qu'il puisse y avoir ces droits entre l'homme et la femme, ça, entièrement d'accord. Qu'ils aient un même salaire pour le travail, ça, on est tous d'accord, il n'y a pas de souci. Mais après, une femme ne sera jamais un homme et un homme ne sera jamais une femme. Moi, j'y peux rien. C'est pas de ma faute, moi, si c'est la femme qui accouche et pas l'homme. C'est pas de ma faute, moi, si c'est la femme qui a des seins et qui allaite l'enfant et si c'est pas l'homme. Moi, j'y suis pour rien. Et c'est pour ça qu'il y a une complémentarité qu'il faut respecter entre l'homme et la femme. Donc, et c'est pour ça que ces deux récits de la création sont très importants parce qu'ils nous donnent une lumière sur l'homme et sur la femme. Et cette lumière est une lumière qui est donnée par des récits qui sont symboliques. Comme l'arbre de la vie est symbolique, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est symbolique. Et Adam et Ève sont des personnages qui sont aussi symboliques. Et c'est pour ça que les 11 premiers chapitres de la Genèse sont métahistoriques. Et les 11 premiers chapitres de la Genèse nous donnent un regard de Dieu sur l'homme et sur la femme. Et on voit comment l'homme et la femme, chapitre 1, chapitre 2, eh bien, vont se retrouver dans Genèse chapitre 3 avec Satan et le péché originel. Et maintenant que le péché originel va toucher l'homme et la femme, il va y avoir des conséquences. Première conséquence sur l'homme et la femme, c'est que l'homme et la femme vont s'entretuer. Hein, c'est Abel et Caïn. Et c'est pour ça que le péché originel, le Christ sera victorieux du péché originel, c'est le cheval blanc. Mais je serai victorieux et j'aurai la grâce de Dieu dans une nature humaine qui va être touchée par Abel et Caïn. Et c'est pour ça que dans ma nature humaine, à cause du péché originel, il y aura cette dimension qui fait qu'il y aura un combat. Et le premier combat, c'est le cheval rouge-feu, qui fait que dans ma vie, il y aura toujours cette dimension de jalousie. Je serai jaloux de mon frère. Et très souvent, je ne voudrais pas que mon frère réussisse. Et je vais essayer, comme Abel et Caïn, que Caïn qui est jaloux, de tuer mon frère, de lui faire des petits coups bas, de lui faire des choses pareilles. Et il y a cette dimension de sanctification pour chacun d'entre nous dans notre vie chrétienne qui va passer par ce cheval rouge-feu qui fait en chacun d'entre nous, dans notre cœur, il y a cette dimension de jalousie, de manque de charité envers son frère qui existe. Quand la grâce de Dieu se donne à nous, à travers le cheval blanc, la grâce de Dieu va se donner dans les trois vertus qui sont la charité, la foi et l'espérance. Et il y a un combat par rapport à cette charité. La charité, c'est quelque chose que je dois acquérir. On a vu pendant la trézaine qu'il y a trois nourritures qui nourrissent le chrétien. Ce qui nourrit le cœur de l'homme, c'est l'Eucharistie. Et grâce à l'Eucharistie, je vais me sanctifier, je vais sanctifier mon cœur. Et l'Eucharistie va m'aider à aimer davantage. Parce que en moi, il y a un cœur qui aura des difficultés pour aimer. Et c'est pour ça qu'il y a des conséquences du péché originel qui vont toucher ma charité. Et ces conséquences qui vont lutter contre la charité, c'est le diable qui ne veut pas que j'aime d'une manière vraie. C'est Caïn et Abel. Deuxième conséquence du péché, ce sera quand il ouvrit le troisième sceau. J'entendis le troisième être vivant dire « Viens ». Je regardais, voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des quatre êtres vivants. Elle disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin n'y touche pas. » Et le deuxième cheval, ce cheval noir, va s'ouvrir sur une grande famine. Les prix sont exorbitants. C'est comme si on n'a plus à manger, comme si on a des difficultés par rapport à trouver la nourriture de chaque jour. Et il est important que l'homme puisse se nourrir. Mais il faut comprendre que je ne suis pas sur terre, premièrement, hein, pour mon plaisir, boire et manger. Et on a, dans la conséquence du péché après Abel et Caïn, on a Noé qui est là. Et le déluge avec Noé, c'est le désordre qui se trouve dans cette ville. Et il y a un désordre qui fait que, eh bien, l'homme n'est plus finalisé. L'homme ne cherche plus son bonheur. Et il se laisse prendre par des choses secondaires. Et on a l'impression que, de même qu'il y a une difficulté par rapport à la charité Abel et Caïn qui s'entretuent, il y aura une difficulté par rapport à l'espérance. Et il y aura un combat pour que notre espérance soit une espérance qui soit forte et qui soit conforme à ce que Dieu veut. Le troisième cheval sera la difficulté qu'on aura par rapport à la foi. La foi, c'est la tour de Babel. Quand la tour de Babel sera construite, l'homme va dire que je n'ai plus besoin de Dieu, je n'ai plus besoin de la foi en Dieu, je vais construire moi-même ma tour qui va me permettre d'entrer au ciel. Hein? Le quatrième cheval, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire « Viens ». Je regardais et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Et donc, la mort, c'est justement celui qui, c'est l'orgueil qui fait que je ne veux plus avoir besoin de Dieu. C'est le péché mortel qui est là, qui va me guetter. Et c'est grâce à la foi en Dieu que justement je deviens quelqu'un de humble et qui peut avoir cette véritable vie. Alors, vous réfléchirez, vous essayerez de voir si on peut faire un lien entre Genèse chapitre 3, le péché originel, et jusqu'au chapitre 11 où on voit les trois conséquences du péché, Abel et Caïn qui s'entretuent, Noé le déluge et la tour de Babel. Et ensuite, ici, c'est comme si le cheval blanc nous donne la victoire sur le péché originel, mais cette victoire sur le péché originel va passer par ces trois conditions qui font que je sois attentif au cheval rouge-feu, au cheval verdâtre, au cheval noir. Pour essayer de faire plus simple, parce que c'est quand même un peu compliqué, je vous l'accorde. Pour essayer de faire un peu plus simple, revenons à la première épître de Jean, au chapitre 2. Et dans la première épître de Jean, chapitre 2, je vous lis à partir du verset 15. « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » On nous montre ici une fois de plus que le monde dans lequel nous sommes va impliquer une manière de vivre qui n'est pas celle de Dieu. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Lorsque nous recevons la grâce de Dieu à travers le cheval blanc qui est victorieux du péché originel, eh bien, nous savons que cette grâce de Dieu nous sera donnée pour surmonter en nous ce qui est dans le monde, à savoir la convoitise de la chair. Deuxièmement, la convoitise des yeux. Troisièmement, l'orgueil de la vie. Et une fois de plus, la vie de la grâce en nous va trouver trois obstacles. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Le cheval rouge-feu, le cheval verdâtre, le cheval noir. Quand Jésus-Christ va être tenté au désert, il va y avoir trois tentations du Christ au désert. Parce que le diable qui est là va faire comprendre à tous ceux d'entre nous qui seront tentés par lui, qu'il y a trois domaines sur lesquels il va essayer de nous tenter. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, nous devons, à partir de ces quatre chevaux, comprendre que le Christ veut nous sanctifier, le Christ veut notre bonheur, mais il a permis dans son plan d'amour avec le Père que ce bonheur passe par les conséquences du péché originel, ces conséquences du péché originel qui impliquent la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux, c'est ce qui correspond à Abel et Caïn qui s'entretuent. C'est la jalousie, c'est la haine qu'il y aura entre les gens. Et le diable va essayer de tout faire pour que justement entre nous, il n'y ait pas cette charité fraternelle. La convoitise de la chair, c'est par rapport à l'espérance. Et la convoitise, l'orgueil de la vie, c'est par rapport à la foi. Donc je crois que dans ces quatre chevaux, on peut comprendre que le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme, le plan de Dieu sur chacun d'entre nous, le plan de Dieu sur l'humanité va passer par la victoire du Christ sur le péché originel. Mais nous qui sommes nés sur terre, nous naissons non pas premièrement avec la grâce de Dieu, mais nous naissons dans le péché originel. Et le péché originel avec lequel nous naissons fait qu'en nous, il y a ces trois dimensions sur lesquelles chacun d'entre nous, nous devons nous sanctifier. On a vu pendant la trezaine que le Christ donne trois nourritures. Parce que chacune des trois nourritures va nous aider à être vainqueurs de ces trois dimensions. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où je suis chrétien, quand je reçois la vie divine et la grâce de Dieu, je dois accepter de prendre les moyens que Dieu me donne pour me sanctifier. Et cette sanctification va passer par justement ces trois domaines qui impliquent les trois vertus théologales. Je dois grandir dans la charité, je dois grandir dans la foi, je dois grandir dans l'espérance. Je reçois la grâce de Dieu et maintenant que j'ai reçu la grâce de Dieu, il faut que moi-même je combatte le bon combat pour grandir en me nourrissant de ces trois nourritures. Je dois me nourrir de la parole de Dieu, je dois me nourrir de l'Eucharistie, je dois me nourrir de la volonté du Père. La parole de Dieu, ce sera par rapport à la foi. La foi naît de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le combat par rapport à la foi, ce sera un combat qui est lié à la parole de Dieu. Le combat par rapport à la convoitise des yeux, le manque de charité entre un, c'est l'Eucharistie qui nourrit ma charité. Et le combat par rapport à la convoitise de la chair, c'est lié directement à l'espérance. Et l'espérance, la nourriture de l'espérance, c'est la volonté du Père. Donc je crois quelque part, vous voyez, qu'à travers ces quatre premiers chevaux qui nous sont présentés, on voit comment Dieu veut nous montrer que par la mort du Christ, l'agneau immolé, c'est ouvert pour nous une vie de sanctification. Et cette vie de sanctification va impliquer que je puisse m'engager, notamment dans mon Église, en pouvant grandir grâce à la parole de Dieu, l'Eucharistie, la volonté du Père. C'est un petit peu comme ça que moi je verrai ces quatre premiers chevaux de Apocalypse chapitre 6. Ensuite, on a, pour montrer ce combat qui existe, parce que tant que nous serons sur terre, il y aura un combat entre les forces des ténèbres, les forces de la lumière. Et dans ce combat, il faut savoir qu'un jour, ce combat va finir. C'est le cinquième sceau. Le cinquième sceau qui nous dit, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Ce monde dans lequel nous vivons est un monde qui va finir. Nous avons déjà des frères qui sont déjà au ciel auprès de Dieu. Et nous devons comprendre que nous aussi, un jour, on va partir. Mais tant que nous sommes sur terre, nous devons nous sanctifier autant que nous pouvons. C'est pour ça qu'il y a les quatre chevaux qui impliquent le combat. Et dans ce combat, nous devons être victorieux. Et même si nous mourons, nous savons que nous serons auprès de Dieu pour toujours, comme ses compagnons qui sont déjà arrivés hein, et qui sont ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Et c'est vrai que chacun d'entre nous, vous voyez quelque part, on souhaiterait que Dieu puisse réagir dès maintenant. Que ceux qui sont méchants, que Dieu puisse les gifler et les punir. Mais ça viendra uniquement à la fin. Et la justice de Dieu va se réaliser, pas tant que nous sommes vivants, mais le jour où il y aura, comme on l'a vu la dernière fois et comme on l'a lu, la fin du monde, où le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Et chacun d'entre nous, nous aurons à rendre compte des actes que nous avons posés. Ensuite, le sixième sceau. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira, tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient, montagne et aux rochers et aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu, qui pourrait subsister ? Le grand jour de la colère de Dieu, qui pour moi va symboliser cette fin du monde qui arrivera, où on sait que déjà une fois qu'on va mourir, on sera auprès de nos compagnons qui nous attendent, mais un jour, cette terre même finira. Et la terre finira le jour où le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Nous ne sommes sur terre que pour un certain temps, 10 ans, 20 ans, 80 ans pour les plus vigoureux, ou même 100 ans peut-être. Pendant ce temps qui est là, nous devons accepter de pouvoir nous sanctifier autant que faire se peut. Que ce livre de l'Apocalypse nous aide dans cette lutte qui est la nôtre, pour que nous puissions chaque jour conquérir davantage le cœur de Dieu, l'aimer davantage, en grandissant constamment dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Bye bye et priez pour moi.